Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Mes stambouliotes chéries, je sais que vous n'êtes majoritairement pas des habitants d'Istanbul, les auditeurs et auditrices, mais je trouve ça mignon, stambouliotes. Mes stambouliantins, stambouliotines, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours sur les dernières auditrices anonymes, Laura et Julia. Je crois qu'elles ont su vous toucher en plein cœur. Et maintenant, c'est parti pour l'édition classique, la summer édition avec des personnalités publiques. On commence avec l'actrice-réalisatrice Fanny Sidney. Fanny a entre autres réalisé la première saison de la série Jeune et Gaulerie sur OCS et récemment la série Brigade Mobile sur Arte TV. Vous la connaissez certainement en tant qu'actrice grâce à la série 10% pour laquelle j'avais passé le casting. On en parle longtemps durant cet épisode qui a été enregistré chez moi début mars. Je m'excuse pour les bruits de bouche, Fanny et moi prenions le petit déjeuner. Promis, ça ne devrait pas vous empêcher d'apprécier notre discussion sur le métier d'actrice dont Fanny dit si justement « Il n'y a aucune bonne raison de vouloir être actrice, c'est comme pour faire des enfants. » De sa difficulté à supporter la pression des plateaux de tournage, à la découverte de l'hypnose, au choix de son pseudo lié à l'amour mythologique de ses parents, j'espère que ce premier épisode de juillet vous fera vibrer.
Alors, le petit praliné, là, il est... Les auditeurs vont me buter, mais ils savent que de temps en temps, je prends le petit-déj. Ou le goûter avec mes invités. Il est bon, le petit praliné ?
Le petit praliné.
Mais tu verras, pour chocolat, il est dingue aussi.
Ah ouais,
ouais, parce qu'en fait, il est praliné aussi à l'intérieur.
Ah, d'accord. Ouais.
Ah ouais, ouais, ouais. C'est marrant, c'est une boulangerie sur la place de Bagnolet qui est beaucoup trop chère pour Bagnolet. C'est pour la population de Bagnolet, écoute, non, je vais pas te dire le prix du pain au chocolat que j'offre à mon invité, mais genre, les gens sont... C'est trop bizarre de, sur la place de Bagnolet, créer une boulangerie trop chère pour tout le monde.
Est-ce qu'elle a des clients ? Il n'y a que toi qui y vas.
Mais il n'y a que moi qui y vais, qui suis prête à dépenser. Non, il y a des clients, mais tu vois, tout le monde genre, se serre la ceinture pour pouvoir... tu vois, c'est un peu bizarre, c'est une tentation. C'est un rappel de... C'est comme si tu avais un truc hyper parisien en plein Bagnolet, ouais. Alors que tout le reste est très bagnoleté. Tu vois, les restaurants, les machins, pizzeria, il y a un truc où tout le monde s'est mis un peu... Sauf cette boulangerie.
Ça, c'est pas trop, comment on dit...
Gentrifié ?
Ouais, exactement.
Ça se gentrifie, mais doucement.
Ouais.
Ouais. Enfin, si, quand même, complètement, hein. Mais...
La petite rue, là, elle est trop cool.
Mais c'est mignon, hein, ici.
Ouais, c'est trop chou.
Ouais, ouais, non, c'est top. Je t'ai écrit un petit poème. Fanny, comment nous sommes-nous rencontrés ? Quelle a été la première fois ? J'avais entendu parler de toi. Je connaissais bien deux de tes ex. On avait dû se croiser à des fêtes, des castings, peut-être Mesrine, certainement populaire de Régis Poinçard. En tout cas, ce fut le casting de 10% qui fut déterminant dans ma relation à toi. Nous étions toutes les deux en lice après plusieurs mois d'audition, trois tours à revenir pour tester des répliques avec celui qui jouerait le père, Mathias. Finalement, ce fut toi. Et pour me consoler, j'essayais de voir les choses en face. Tu avais plus d'expérience à l'image que moi, t'avais tourné dans la série Hard et aussi dans Casting avec Pierre Niney. Et puis, t'avais fait la Fémis. J'ai toujours été impressionnée par ton parcours, que tu sois actrice et réalisatrice. Et étonnamment, quand je vivais un drame avec le personnage d'Edouard dans mon livre, nous continuions toutes les deux à nous croiser sans nous rencontrer. À la projo de Selfie, film dans lequel tu as joué, j'y ai aussi un petit rôle dans l'un des sketchs. À la projo de la série Loulou, dont tu as réalisé certains épisodes. J'ai été coupée au montage, mais j'avais une réplique rigolote avec Marc Fraisse dans la scène avec les parents d'élèves. Aujourd'hui, nos vies cessent de se croiser, on se rencontre. Grâce à Instagram, finalement, à la vidéo France TV Slash que tu as partagée, je me suis dit « mais il faut que je t'envoie mon livre ». Puis tu es venue au spectacle et maintenant nous sommes inséparables. Je sens que l'on va faire de grandes choses ensemble et j'espère que cette discussion encouragera les actrices en compétition à des castings, à s'aimer tout de même et à compter les unes sur les autres.
Bravo.
Mais oui, et tu avais pensé aussi à ça, au projo de selfie, on se l'est rappelé hier, mais à la projo de Loulou aussi, encore une fois.
La projo de Loulou, ouais. Ouais, je vois très bien, en effet, dans selfie, ce que tu fais, t'es hilarante, j'adore. Non, est-ce que t'as pas cité ce casting pour ce film anglais ?
Lequel, déjà ?
Où on s'est recroisés c'était un truc, c'était pour Dior. Tu vois, tu te souviens de ce truc-là ? Et moi, j'ai été assez mal accueillie par une directrice de casting qui est partie manger pendant mes essais.
Ah ouais ?
Ça, c'était pas cool. Ah. Et t'étais là, et je me dis... je trouve ça assez fou, ce que tu racontes sur le casting de 10%. Après avoir lu ton livre, j'ai réagi parce que ces lignes-là, ça a été une déflagration. C'est très étrange. Physiquement, il s'est passé un truc. Parce que pour passer un casting, il faut croire qu'on est toute seule ou qu'il n'y a que soi ou qu'on est la meilleure. La peur de l'autre ou... je trouve que c'est un équilibrisme avec soi et son ambition qui est compliqué. Et je ne savais pas que c'était toi. Je savais qu'on n'était plus que deux. Je ne savais pas que c'était toi. Et ensuite, quand je t'ai recroisée, moi je t'avais vue dans plein de choses, quand on s'est recroisée à ce casting Dior, je me suis sentie toute petite de te croiser. Je me suis dit, putain, ok, Rosa Burstein fait chier, quoi.
Ah ouais,
vraiment, j'ai eu un truc. Et quand j'ai lu tes lignes, je me suis dit, eh oui, mais pour toi, à ce casting-là, j'étais la meuf de 10%.
Mais oui, enfin, complètement. Mais attends, c'était
je projette.
Mais oui, complètement. Mais c'était où déjà le casting Dior ?
C'était dans le centre de Paris, rue sous Bastille.
Passage de la Roquette ?
Non.
Faubourg
Saint-Antoine, un truc comme ça, non.
D'accord.
Entre Saint-Paul et Bastille.
Entre Saint-Paul et Bastille.
Un studio, je ne citerai pas.
Ouais, non, bien sûr, tu fais bien, mais c'est marrant parce que je m'en souviens pas. Mais en effet, par contre, j'ai un souvenir que j'ai pas dit dans le poème, c'est qu'une fois, on s'était aussi croisés à une projo, et je me demande si c'était pas à l'UGC, comment dire, tout en haut dans le 19e, là. Tu sais, celui qui est à la Villette.
Là, je n'y ai jamais mis les pieds, sur les maraîchers.
Tout en haut.
Il aurait chaud.
En tout cas, c'était un film et je me souviens que je t'avais vu, que t'étais trop mignonne, que tu m'as dit coucou. Parce qu'en fait, on se connaissait sans.
Mais oui.
Et moi, je t'avais répondu un peu froidement. Et je te me demandais si tu t'en souvenais.
Non, pas du tout.
Ah bon, bah voilà. Et je t'avais répondu bonjour, oui. Et je crois que c'était quand même peu de temps. Et je crois que j'avais encore une jalousie, en fait, tu vois. Une jalousie, clairement.
Oui, mais tu vois, c'est fou parce que moi, ne sachant pas... et t'ayant vu dans Les Liaisons Dangereuses, dont j'ai passé le casting raté haut la main, pour moi, c'était Rosa qui avait eu un rôle que j'avais pas eu quand je t'ai croisée au casting Dior. Donc, il y a eu tout ce truc. Et ce que je trouve très difficile, c'est ce moment où, en fait, t'es en face de quelqu'un que tu connais, dont tu connais le travail, parfois des amis... Et il faut quand même te dire que ça va être pour toi.
Ouais.
Ça, c'est hyper violent. Et comment, en fait...
hyper violent.
Comment tu veux qu'il n'y ait pas de rivalité, en fait ?
Impossible.
Et qu'on ne soit pas dans des jalousies, puisque de toute façon, intérieurement, il faut se faire la place à son...
Ouais, à son orgueil.
Ouais, à sa foi, à sa... Et parce que... Enfin, moi, le nombre de castings que j'ai passé en me disant... en perdant mes moyens parce qu'il y avait quelqu'un...
Ouais, complètement. Tu sais que tu croises dans la salle d'attente et tu te dis, mais oui, bien sûr, c'est
foutu,
elle,
tu dis,
évidemment.
Je dis, bien sûr.
Ouais. Et puis, tu sais, le truc de 10%, en fait, pourquoi c'était aussi très chelou, c'est que juste avant qu'ils prennent leur décision, j'avais eu Clapiche au téléphone. Et
il t'avait dit qu'il te voulait, toi.
Non, mais il m'avait dit qu'il hésitait entre deux filles. Ouais. Et moi, j'étais tellement... ouais, un peu désespérée pour ce rôle. Enfin, je sais pas, je le voulais, je me disais, il me le faut. Que j'avais dit, mais je peux t'envoyer. Je venais de tourner dans le film The Programme sur Lance Armstrong, le film de Frears que personne n'a vu. Mais moi, à la peau que je disais, tu vois, ça va être énorme.
Classe.
Évidemment. Donc, j'avais dit, mais je peux peut-être essayer de t'envoyer les scènes, de demander aux Anglais. Évidemment, c'était impossible, mais t'es là, ouais, peut-être. Et je crois qu'il m'avait dit quelque chose comme, pourquoi toi ? un truc... Enfin, il m'avait posé la question de...
Pourquoi ça serait toi, Camille ?
Ouais, il fallait peut-être que je dise... Peut-être qu'il fallait, il aurait fallu à ce moment-là, dans cet appel, ce coup de fil, que je le convainque une ultime fois.
Moi, je crois que pour avoir appris, être passé un peu de l'autre côté,
ouais.
Et appris de ce qui se joue, je sais, par exemple, que je ne faisais pas l'unanimité.
Ah ouais ?
Bien sûr, mais... Enfin, c'est normal, parce qu'en fait, les instances décisionnaires, elles sont... multiples et que finalement en plus sur une série à ce moment-là de la série avec ce trouble sur est-ce que c'est le producteur qui showrun, enfin qu'on appellerait showrunner, est-ce que c'est là en l'occurrence une scénariste, est-ce que c'est le réalisateur invité, enfin je pense que pour l'avoir vu c'est quand même des décisions, pour l'avoir vécu moi sur des choix à faire en casting en tant que réalisatrice. C'est des décisions qui sont très collégiales.
Ouais, beaucoup de pouvoir en place.
Oui, et parfois il y a des compromis, parfois des choses comme ça. Donc,
oui, c'est pas.
Ça me détend maintenant sur le fait que ça m'appartient plus. À partir du moment où j'ai fait le travail, ça m'appartient plus. Et il y aura peut-être quelqu'un qui aura du désir pour ce que j'ai fait, mais dont la voix sera pas retenue. Voilà.
Bien sûr, mais ça n'arrive pas. Je sais pas pourquoi. De temps en temps, tu as une intuition. D'un rôle, un personnage où tu te dis, en fait, je sais pas pourquoi, c'est moi. Genre, je sais pas,
bien sûr. Mais tu sais, quand je lis ton livre, je comprends pourquoi c'était toi aussi, Camille Valentini. Parce que j'ai mis du temps, moi, à comprendre, et je comprends pourquoi on était ensemble à cet endroit-là du casting. Moi, je me suis... Parce que j'ai su après, et je crois que je n'ai pas su pour toi, mais j'ai su aussi pendant, quand je passais, j'avais évidemment des amis qui le passaient. Et donc, j'avais ce sentiment de... Et après, je me suis dit, quand je l'ai eu, puis quand j'ai vécu le tournage, quand j'ai traversé même physiquement ce tournage, j'ai compris que ce qui s'était passé, c'était pas une question de niveau, c'était une question de coïncidence avec ma backstory. Mon histoire personnelle, voire transgénérationnelle, qui venait frapper à un endroit où c'était une nécessité pour moi de raconter cette histoire-là. En fait, je me suis aperçue que tous les films qui avaient été un peu clés pour moi, même si c'est des choses qui ont l'air un peu mineures, mais pour moi, ça a été clé, avait un rapport avec la reconnaissance du père. Dans Mérine, mon père, je ne l'ai pas vu pendant 17 ans, c'était mon premier rôle au cinéma avec Vincent Cassel. Je me retrouve du coup à une scène de parloir père-fille, c'était hyper important pour moi et quand même une relation très abîmée. Et puis ensuite il y a eu Hard, où là, c'est un personnage qui fait le deuil de son père pendant 4 saisons, puisqu'il meurt au premier épisode. Et puis ensuite il y a eu, 10%. Voilà, et je pense qu'en fait, il y a aussi ça qui joue. C'est-à-dire qu'à un moment, ça nous appartient plus aussi à un autre niveau, d'arrêter de penser à la performance.
Et c'est fou et c'est marrant, ça crée une ressemblance entre nous qu'en effet, le personnage de Camille Valentini, maintenant que tu me le dis, de chercher à tout prix la reconnaissance du père.
Lol.
Bah ouais, c'est vrai que c'est dingue. Et c'est vrai. Et oui, moi, je sais pas pourquoi, moi, ce qui m'avait frappée aussi, c'était le fait que sa naïveté et son envie d'appartenir à un monde aussi.
Ouais,
je crois
sûr,
que c'était
bien
ça.
Bien sûr.
Et sa maladresse, il y avait quelque chose, en fait, aussi du comique du personnage.
Ouais, ouais.
Et j'étais persuadée que, en fait, pour moi, il y aurait que des rôles un peu comiques qui fonctionneraient. Que, tu vois, à chaque fois qu'il y avait des rôles graves, il y aurait 10 000 fois plus d'actrices françaises un peu marquées, un peu, tu sais...
Intense,
dures, qui correspondraient.
Ouais.
Mais que moi, ce serait toujours des personnages un peu légers, finalement. Ouais. Et donc, je me disais, là, c'est... Mais oui, c'est marrant. En fait... Finalement, les filles qui se retrouvent au dernier round d'un casting devraient se rencontrer, tu vois, parce que ça veut dire qu'elles ont des choses en commun plus profondément.
Ouais, mais après, tu t'ouvres le capital empathie, et en fait, si tu fais ça, tu risques de perdre ton job. Enfin, tu vois, c'est ça
vrai.
Qui est très compliqué.
C'est
qu'en fait, moi, j'ai envie de dire, quand je rencontre quelqu'un que j'aime, et franchement, je te souhaite tout le bonheur du monde, et du coup, si tu veux mon travail, je te l'offre. Enfin, j'ai besoin d'un moment...
D'un égoïsme naturel, c'est obligé.
Ouais, malheureusement, c'est terrible, hein, mais...
Mais c'est la vérité, et c'est vrai, et tu peux pas t'empêcher, même si... Alors, à l'époque, c'était moins développé, ce truc de sororité et tout, mais... moi-même, si la jalousie à ton égard, c'était plus comme une espèce de petite, tu sais, de petite pique où c'est comme quand les gens me disent « Ah, tu ressembles à Anaïs de Moustier », et ça, c'est le truc où je dis « Ah oui, je sais
ah, ». Oui.
Et tu vois, les gens me disaient toujours « Eh, mais attends, mais t'as pas, tu voudrais pas jouer dans 10% tu connais 10% t'as regardé 10% ah, là, là. Et à chaque fois, je dis genre « Oui, oui, j'ai entendu ». Et tu sais, la série, c'est long, tu vois, ça a été là.
À chaque c'est fois, pénible.
J'entendais cette phrase, j'entendais cette phrase, j'entendais cette phrase, et ça revenait un petit peu, un peu piqué à cet endroit, jusqu'à ce que un jour ça part, tu vois, avec le temps. Mais il y avait toujours ce petit... Toi, il y a un rôle, un casting dont t'es passé à côté et qui revenait un peu te hanter
Non, il me hante plus parce que je prends en charge mes récits et que je suis suffisamment occupée pour être passionnée et m'être émancipée du désir des autres. Il y en a un, ouais, qui... Enfin, en fait, il y a des castings... Ah là là, il y a des castings où je me suis dit ça bascule. Si je l'ai, ça bascule. Et je les ai pas. Je les ai.
Tu penses à un en particulier ?
Je pense à deux là récemment. Ouais. Ouais, une rencontre avec une réalisatrice, un des essais, enfin avec quelqu'un qui avait une. Et là pour le coup, comme maintenant j'ai identifié cette chose-là de la coïncidence entre ce que le personnage a raconté et ce que j'ai à comme mission de récit. Là, je l'avais identifié. Donc, pour moi, il y avait en plus ce truc de bon...
C'était très
je pense qu'il ne faut pas l'identifier, en fait. Parce que moi, sur Camille Valentini, je ne l'avais pas identifié. Ouais. C'est même... j'ai fait des très fortes crises d'angoisse pendant le tournage. Et mon père, à la fin, m'a dit... quand il a vu la première saison, m'a dit « Quand je vois ce que tu as joué, je comprends pourquoi tu étais dans cet état-là. Oh. » Et vraiment, j'étais... moi toujours pas, et en fait ça a processé et voilà, même si j'ai pas particulièrement le sentiment qu'il y a quelque chose à résoudre avec mon père et que c'est peut-être aussi un peu transgénérationnel, mais voilà.
Et quand tu dis transgénérationnel, ça veut dire qu'il y a ta une grand-mère qui n'a pas connu son père.
Alors ma maman a eu une relation très difficile avec son père qui était très dure, et là j'ai réalisé qu'en fait sa propre grand-mère n'avait pas connu son père qui était mort. Elle est née en 1912,
okay.
Et son père est mort au premier jour de la guerre.
Oh, wow.
Tu sais, en rouge là, en tête de peloton, et pour la petite histoire, ils sont tous morts à ce moment-là parce qu'ils étaient bien en rouge.
Oui.
Voilà, et figure-toi que Bertrand Huskla, qui est un ami commun, m'a dit, tu sais que c'est ma famille qui fabriquait les teintures qui avait réussi à refaire ce truc-là, donc il est quand même un peu responsable de la mort.
C'est dingue. C'est extraordinaire.
C'est bizarre, hein.
C'est bizarre comment vie, quand même. Ouais, et c'est vrai que c'est cette réflexion de la transgénération est un truc en ce moment que les gens creusent.
Ouais.
Et
je sais pas, tu vois, mais.
Non, bien sûr, moi je crois pas à la mémoire cellulaire. Je sais pas si tu crois à ces trucs-là, toi. C'est très à la mode.
Ouais, j'ai vécu quelques séances un peu. Un peu étranges avec quelqu'un qui parle à la mémoire de mes cellules. Sans moi. Enfin.
Ouais.
Ouais, mais avec moi, mais voilà.
Et en tout cas, tu fais des crises d'angoisse sur 10%. Sur le moment, tu comprends peut-être pas forcément pourquoi. T'avais déjà fait la FEMIS avant 10%.
J'ai eu le casting en troisième année. J'ai su que j'étais prise et on a tourné pendant que j'étais en quatrième année, en dernière année à la FEMIS.
D'accord. Et tout d'un coup, c'était conciliable pour toi à cette période, l'envie de réaliser, l'envie de jouer. Il y avait pas de conflit. Se mariait bien.
Oui, ça se mariait bien. Ça se mariait bien. C'est pas cet endroit-là. Que j'ai été très très j'ai été sujette à un trac de fou, quoi. Et c'était terrible, hein. C'était vraiment terrible. Tout le monde me disait, tu verras, le tournage va commencer. Ça a commencé la première lecture. Et j'ai vraiment perdu mes moyens, quoi. J'étais complètement dissociée. J'ai passé toute la première saison complètement dissociée, à côté de moi-même. Et alors du coup, à faire des choses hyper maladroites, mais hors plateau, à la Camille Valentini, à me cogner, à dire des trucs impensables, enfin, un stress terrible, quoi, et un trac. Et voilà, et je...
Que t'avais pas eu sur d'autres rôles ?
Si, j'avais été traqueuse, mais j'avais eu d'autres trucs vraiment terribles, quoi, des choses... sur Hard, il y a une saison où j'avais eu peur du trou de mémoire. Oh là là, quel enfer. Mais aucune... Enfin, c'est vraiment dingue. Et ça, ça m'est complètement passé. Ce qui est très beau, et moi, ce que je voudrais, le message que je voudrais passer, c'est que ça passe. Mmh. C'est que ça peut passer. On peut en sortir de ces choses-là. Et ça, c'est vraiment des mécanismes, pour moi, d'auto-sabotage, quoi.
Ouais.
Qu'est-ce que ça peut être d'autre que ça c'est de la psychose, c'est de la névrose, je sais pas ce que c'est, mais jouer et te dire attention, te planter, tu vois. Bon, c'est t'empêcher temps, totalement d'être dans le.
Ouais, mais je comprends parce qu'il y avait une attente qui avait été créée autour de cette série et je comprends que c'était une pression énorme et c'est pas pour rien que moi j'ai cru que ma vie en dépendait. C'est que c'était de toute façon annoncé comme. Enfin, ils pressentaient que ce serait le succès que ça a été et en effet, c'était un succès planétaire. Et ils avaient bien l'idée quand même qu'avec un tel pitch, un tel réalisateur, un tel producteur, et puis ensuite, même si dans l'équipe de base, les acteurs n'étaient pas connus d'emblée, leur Calamy, mais chaque épisode, vous aviez des stars.
Ouais, ouais.
Donc en fait, c'est quand même aussi une pression de ouf, quoi.
Ouais, ouais.
De chaque épisode rencontrer, enfin les légendes du cinéma français. Je comprends que t'étais, enfin tu vois, c'est un contexte.
Je pense que je me suis pris la plus belle suée de ma vie dans cette scène de l'ascenseur avec Cécile de France où vraiment c'était un enfer, quoi. Et en même temps, c'est tellement Camille Valentini.
Ouais.
J'aurais aimé la rendre peut-être sur cette saison-là, en tout cas. Plus malicieuse et maîtrisée un peu plus. C'est-à-dire que là, ça c'est... Il y a eu un écrasement des soies, tu vois.
Ouais.
Et ça me fait du bien aujourd'hui d'entendre des podcasts, des émissions et des acteurs qui parlent de ça,
ouais.
En fait. J'aurais aimé à 20 ans avoir des gens entendre. Je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé ces informations là. Est-ce qu'elles existaient pas? On s'autorise plus aujourd'hui? Est-ce que j'étais pas
on s'autorise à peine aujourd'hui
à dire qu'on a très peur et que c'est très dangereux ce métier.
Hyper rare, c'est hyper
c'est
rare.
Ah bah,
moi je trouve que c'est moi j'ai toujours été en manque de témoignages de la part d'actrices françaises.
Ah oui.
J'ai toujours puisé les sources dans les actrices américaines, dans les émissions de l'Actor Studio, les podcasts américains.
Et qui en parle ça? Moi j'ai l'impression
qui en
qu'en
parle
fait
de ouf.
Il y a tellement justement, et j'ai une psy qui m'a dit une phrase que je trouve vraiment merveilleuse, qui m'a dit « c'est très difficile de supporter sa chance ».
Ah !
Je dis « ah bah oui, bien joué, merci ouais. ». Parce qu'en fait, cette injonction au plaisir, à la joie, à la... Enfin, comment dire, je sais pas comment dire...
C'est le sentiment d'imposteur. C'est, j'ai l'impression que dans l'Actor Studio, moi, il y a un épisode qui m'a marqué, c'est quand t'as l'actrice qui a joué dans Mulholland Drive, la blonde.
Ouais.
Je ne sais pas pourquoi ce matin je perds tous mes mots, ça doit être l'émotion, tous mes noms. Mais Naomi.
Watts.
Ouais, Naomi Watts. Mm. Qui raconte et qui pleure dans l'épisode. Et c'est pas un truc à l'américaine, on pleure, c'est fait exprès. Mais en fait, qui raconte le moment où elle était prête à tout abandonner, quoi, en fait, finalement. Et elle voulait retourner en Australie. Et elle était amie avec Nicole Kidman. Et c'est Nicole Kidman qui l'a poussée, tu vois, à continuer. Qui lui disait, mais reste à Hollywood, continue, repars pas, rentre pas, ça va arriver. Et vraiment, elle était... Et le casting de Mulholland Drive, c'était le... Et ça arrive souvent que les acteurs disent ça, mais c'est vrai que c'était vraiment le moment où elle se disait, bon... C'est le dernier truc que je passe et ensuite j'arrête, je rentre chez moi, je souffre trop, quoi. Et finalement, c'est
marrant ce que tu dis, parce que moi, ça a été beaucoup comme ça. Les rôles que j'ai eus, c'est un moment dans ma vie. Et 10% faisait partie de ça. Je venais quand même de sortir d'une expérience compliquée où j'avais réalisé un court-métrage à la FMIS dans lequel je jouais.
Mmh.
Et j'avais été très paralysée, encore une fois. Et donc, je m'étais dit, c'est trop de souffrance. Enfin, c'est trop de souffrance. C'est pas tant trop de souffrance que je le vaux pas. Et donc, en fait, je suis aussi arrivée sur ce casting. Enfin, je le vaux pas. Je l'ai pas, quoi, le truc de l'acteur. Je fais peut-être probablement ça pour les mauvaises raisons. Aujourd'hui, je m'autorise à penser qu'il n'y a aucune bonne raison d'être acteur.
Ouais.
C'est comme faire des enfants.
Ouais,
franchement.
Ouais. C'est clair.
Il n'y a aucune bonne raison d'être... Enfin, il n'y a aucune raison noble ou...
Non.
Et le plaisir du jeu. Enfin, voilà. Mais je me disais, je n'ai pas assez le plaisir du jeu pour que ça soit légitime d'être actrice. Voilà. Et donc, probablement que je suis aussi allée à ces essais plus légères. Et ça, c'est arrivé régulièrement. Enfin, vraiment, à chaque fois, je me dis, j'ai plus jamais. Il se passe un truc qui me retient. Et là, j'arrive à un moment où je me dis, si, encore, en fait. Ouais, où j'arrive à me libérer de cette pensée et arrêter de me faire croire que je vais arrêter et à faire le petit trait d'union entre actrice et réalisatrice.
Bien sûr.
Pas...
Eh bien, tu sais quoi, moi, c'est après avoir raté 10% que je me suis lancée, que j'ai réalisé mon premier court-métrage.
Ah, génial.
dans lequel j'ai joué, tu vois. Donc encore une espèce de similitude. C'est vrai que je me suis autorisée à me donner ce rôle. Et je sais pas toi où t'en es de ta réflexion, parce que c'est délicat aussi d'écrire pour soi, tu vois. C'est un peu...
Ouais.
C'est un, surtout aujourd'hui, est-ce que tu, dans les projets que t'écris, est-ce que quand tu développes, tu te dis ah bah il y a ce petit personnage, j'aimerais bien le faire.
Ouais, mais c'est normal. Mais en fait, l'expérience que j'ai faite, à chaque fois que je me suis mise en scène, c'était vraiment pas terrible. À chaque fois que je le fais, j'ai quand même des gens qui me disent ne le fais pas. Donc ça, c'est dur. Je trouve que c'est très dur parce que c'est dur de enfin, on a besoin de confiance hein, quand on est acteur. En tout cas, moi, j'en ai vraiment énormément besoin. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise c'est super.
Grave.
Même si c'est pas super.
Mais
parce
oui.
que du coup, après, ça va être super.
Mais oui, absolument.
Non, mais tu
ah
vois,
bah, c'est super.
Si je vois quelqu'un qui est déconfit devant ce que je fais, c'est...
Ah, mais non, mais
déjà
moi,
que j'ai mon petit démon, mes petits auto-jugements qui font. Enfin,
ah bah,
j'ai appris
ça,
à éteindre et à travailler, mais et donc voilà, et donc là oui j'ai un projet dans lequel j'ai très envie de jouer, mais je suis comment dire, struggled avec
ouais.
avec ça, tu vois, j'ai pas de meilleurs mots, c'est très ambivalente en fait. À un moment je me vire, à un moment je me garde, à un moment je me dis à tous ceux qui veulent pas que je le fasse ou qui me conseillent.
Peut-être qu'il faut que tu trouves la personne qui dans ce projet sera là aussi pour te coacher, même si ce mot est un peu galvaudé, mais en fait c'est aussi beaucoup ça, tu vois. Mine de rien, moi le spectacle de stand-up, si je suis arrivée à monter sur scène avec mes textes, mais c'est aussi parce que j'avais une metteur en scène qui me donnait beaucoup d'amour et
ouais, c'est sûr, mais je suis hyper impressionnée moi par ce péril-là, hein, ce risque-là, cette audace-là d'aller monter sur scène. Je sais pas, moi j'ai pas pu faire de théâtre parce que je vivais plus en fait la journée.
Ouais.
J'arrêtais de vivre, enfin un peu comme cette première saison de 10% où en fait j'étais si dissociée, j'étais en permanence dans le scénario catastrophe du tournage, mais même avec des amis, et donc je donnais le change et j'étais complètement absente au présent. Complètement absente au présent. Et alors le théâtre, puissance 10, quoi. Enfin, le théâtre ou la scène ou le live, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a une pression, mais c'est différent. Parfois, il y a moins de gens, il y a moins d'argent en jeu, il y a moins de regards, c'est plus... Et puis, l'erreur peut être un peu plus humaine et célébrée. Souvent, les gens applaudissent quand un acteur a un trou de texte.
Ouais, ouais. Mais c'est aussi parce que t'amènes cette... ce rapport-là. Il y a une manière, je trouve, d'être très, très OK avec des déroutes qui font qu'en fait, si l'acteur sur scène, il n'est pas OK avec ça, il est tombé avec ça, ça va créer un malaise terrible.
Ouais.
Et là, il y a aussi une tellement grande générosité dans ce que tu fais que... non, c'est vrai, c'est... Enfin, moi, je suis... Je suis toujours... je crois que je fais de la réalisation aussi pour ça. J'aime énormément les acteurs et les actrices. Vraiment, je suis fascinée. J'ai toujours ce regard de... C'est pour ça qu'en casting, c'est difficile aussi pour moi de me sentir à la hauteur, tu vois. C'est...
De l'autre côté, de choisir, de dire...
Ouais. Ou même, non, mais même quand je suis actrice, je dirais, en fait, j'ai tellement envie de voir des acteurs et des actrices jouer. Et à chaque fois, je vois cet endroit-là. Et ça m'a fait ça avec ton spectacle, de ce territoire... que t'abordes vers lequel je suis incapable de tu vois d'approcher un pied, de m'approcher de ces, je trouve ça très beau, ça doit être très jubilatoire.
C'est jubilatoire, mais ça se trouve t'en serais capable. Moi je ne savais pas du tout que j'en étais capable, tu vois, un petit peu avant de tester. C'est vraiment finalement le stand-up, tu vois, c'est parce que j'arrivais pas à monter mon deuxième projet de moyen-métrage. Hein. C'est parce que, en fait, je me disais, mais ça se fera jamais, tu vois.
Et t'as pas le trac?
J'ai le trac un peu, mais je respire. En fait, j'ai moins le trac parce que ça se passe souvent bien à la nouvelle scène. C'est rare que ça capote.
Ouais.
Donc... En fait, j'avais peut-être plus le trac avant dans le petit théâtre où je jouais, parce que je me disais, mais c'était un peu la loterie, quoi. Ça se trouve, je vais être face à des gens qui vont passer complètement à côté. Là...
C'était sur ce spectacle-là ou un précédent?
C'était le précédent, c'était le premier. Mais non, mais le début de ce spectacle aussi, la première version, je l'ai rodée aussi dans le tout petit théâtre. Et j'avais plus peur, parce que je me disais, mais... là, c'est vrai que j'ai un peu le trac, mais je me mets dans un... Je pense que je joue mine de rien. Même si c'est moi, je me mets dans un rapport énorme de, en fait, un peu de domination, tu vois. Et c'est peut-être un peu ce qui me manque ou ce qui, moi, me rend malheureuse avec les castings et la raison pour laquelle je suis plus sûre de vouloir en passer. C'est parce que je me sens trop soumise. J'arrive pas à arriver avec la confiance, la détente. C'est très rare, quoi.
Mais, puis moi, ça me provoque des régressions terribles, quoi. Tu vois, par exemple, le casting d'Or, c'était terrible, quoi, parce que tout d'un coup, j'étais gauche. Enfin, moi, je me disais, mais non, moi, je suis une Camille Valentini à vie, tu vois, mais pas... Enfin, juste, gauche, je crois que j'ai fait tomber... j'ai cassé un verre en arrivant, enfin, j'étais vraiment... J'ai 6 ans et demi, quoi.
Et ça t'a pas quand même apporté énormément d'amour et de confiance, le fait que tout d'un coup, la série ait ce succès? Tu vois, hier, on était au ciné, que les gens te demandent une photo.
Je me sens toujours... C'est horrible, je me sens toujours aussi... illégitime. Mais ça dépend des endroits. En fait, bizarrement, quand les anglo-saxons me disent qu'ils ont apprécié ce que j'ai fait, au-delà de 10%, ça me porte énormément.
Ouais.
Je sais pas pourquoi, parce que c'est... Je sais pas pourquoi. Mais non, je suis intimidée. Si je dois être très honnête, j'ai toujours un rapport à la honte, hein, quand je joue. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu honte.
Mais je comprends cette honte. Alors c'est marrant, moi c'est pas quand je joue, mais moi j'ai toujours eu honte de dire que je voulais être actrice, ou même quand, tu vois, les gens me disent... Enfin, j'ai un peu honte aussi parce que j'ai l'impression que c'est révéler quelque chose d'hyper intime. C'est comme si on avait choisi comme métier un fantasme inavouable. Enfin, tu vois, on demande pas aux gens dans la rue « est-ce que toi t'aimes ?» et tu vois, un truc ultra secret, quoi. Et en fait, ce truc ultra secret, ultra enfantin, tu vois, et bah finalement on doit le dire, et c'est ça notre métier. Mais en fait ça devrait être notre activité cachée, en fait. Personne ne devrait le savoir qu'on aime être, enfin tu vois, qu'on pratique, on devrait et je pense, mais même parfois humoriste, moi aussi j'ai un peu honte, parce que dans la vie je suis pas non plus une grande rigolote, tu vois.
Et je pense qu'il y a aussi t'es plutôt rigolote, hein, dans la vie.
C'est parce que tu m'inspires des envies d'être marrante, mais je ne le suis pas avec tout le monde. Je suis marrante avec les gens qui m'inspirent l'envie d'être marrante. Hein.
C'est la synchro.
Ouais.
Mais non, mais tu sais, c'est aussi cette idée que, en fait, comment dire, tout le monde tout le monde peut s'exprimer sur. C'est rare des métiers. Enfin, mon père, par exemple, qui est ingénieur informaticien. Comment savoir s'il a fait du bon boulot aujourd'hui ou pas. Donc personne va... En fait, c'est très compliqué, cet endroit où... Et c'est ça qui provoque aussi un peu de la honte, c'est qu'en fait, tout le monde se permet de venir te donner son avis.
Ouais.
Et le plus désolant, parfois, ou blessant, c'est quand c'est tes proches qui n'y connaissent rien, qui ne savent pas ce que c'est que gérer la pression, ce que c'est, et qui ont, parce que tout le monde a vu des acteurs et des films et des grands acteurs, et voilà, ont une idée de ce que doit être le jeu. Et ça, je pense que ça... Moi, je trouve que ça peut être assez accablant de se dire... mais je fais ce que je peux, je fais comme je peux, et surtout je viens pas, enfin, ça, si les gens pouvaient imaginer que tout le monde vienne commenter leur travail, je pense qu'ils seraient plus indulgents et plus tendres. Et
sur les tournages, les gens qui te parlent de ton corps, et même parfois les chef-op qui te parlent de ton visage, ou les costumières, ou tu sais, même parfois les retours où on te dit attention, ouvre pas trop grand les yeux, t'as l'air d'une folle. Enfin, tu sais, des phrases où les gens dans la vie, ils ont tous des tics de langage, d'expression, et d'un coup, quand t'es sur un plateau, on te parle de toi, toi dans ta chair, quoi.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Et c'est étonnant. Et parfois, c'est pas forcément méchant. Moi, je sais que parfois, on m'a souvent fait ce retour sur mes yeux. Avant, je me disais, ah, mais j'ouvre trop grand mes yeux, j'ai une tête de folle, il faut que j'ai un visage plus normal. Et puis ensuite, oui, il y a le rapport au corps, où ensuite, il faut, tu vois, moi, c'était beaucoup des remarques sur mon poids, quoi. Tout le temps. Toi, t'as eu des remarques complexantes de la part de maquilleuses, des trucs...
Non. J'ai eu... Enfin, oui, mais pas de la part de maquilleuses.
Ouais.
Et d'ailleurs, non, j'ai vécu un tournage où il a été dit qu'il fallait que... que je rajeunisse pour comprendre pourquoi le personnage masculin était amoureux de moi. Donc il fallait me rajeunir absolument, que je sois un bonbon. L'acteur en question est né la même année que moi, donc voilà, ça pose quand même quelques questions. Et surtout, oui, il a été dit texto que ma parentalité devait être cachée. Enfin, c'était pas parce que j'étais une MILF qu'il fallait que le spectateur le sache.
Waouh.
Et celle-là, elle m'a violentée très fort, d'autant que l'échange que j'ai eu ensuite avec le réalisateur a été compliqué, parce que je lui ai expliqué que j'avais envie qu'on crée ensemble un modèle de rôle, un modèle féminin de 35 ans, désirable, sans que ça passe par une mini-jupe et par le fait de la rajeunir. Et donc ensuite, je me suis entendue répondre que j'avais peur de vieillir, que c'était mes angoisses. Et puis voilà. Et en fait, j'ai envie de dire... alors moi, ce n'est pas mon sentiment, parce que j'adore vieillir. J'adore regarder mon corps se transformer. J'ai une petite fascination presque un peu morbide, finalement, pour ça. Tiens, c'est un peu plus flasque. Ah, les petites rides qui apparaissent. Voilà. Pour l'instant, ça me fait rigoler. Peut-être que ça me fera plus rigoler à un moment, mais... J'ai pas l'impression d'avoir peur de vieillir. Par contre, oui, je suis très angoissée qu'il n'y ait pas de représentation valable de nos corps, de nos êtres, de nos personnes passées un certain âge. Je suis très inquiète du fait que, en effet, jusqu'à peu et encore maintenant, les rôles féminins, enfin, passés un certain âge, on était, il y avait une sorte de désert,
de représentation,
voilà. Donc
ça c'est très chelou quand même, vieillir en tant qu'actrice et passer 30 ans, c'est le truc qui revient. Moi en effet, dans ma vingtaine, c'était le poids, et maintenant passer 30 ans, c'est l'âge et attention, est-ce que tu fais jeune, est-ce que tu fais vieille, est-ce que tu fais ton âge. Et les descriptions, alors il y a des descriptions que j'ai trouvées humiliantes sur les castings, la bonne pote, tu vois, des trucs, mais comment dire, pas... Même j'avais passé un casting alors que vraiment je faisais un 38-40 et le rôle, la description, c'était la grosse du groupe, quoi. Donc tu vois, en plus je trouvais ça déjà pas bien qu'en fait la vision de la grosseur ce soit mon corps, parce que en fait non, tu vois, il y a des corps plus gros, et même ça c'est pas réaliste. Et récemment j'ai passé un casting pour le personnage La Quarantaine. Je me dis mais en fait moi je me dis mais ou ne le mettez pas si vous avez un doute sur l'âge du perso. Ou moi, je me dis, mais t'imagines, ça veut dire que, en fait, à 32, je passe des rôles pour des femmes de 40 ans. Ça veut dire qu'en fait, pour 32, c'est des rôles, ils les font passer à des meufs de 24 ans. Enfin, j'en sais rien.
Oui, bien sûr. Bah, c'est toutes les polémiques récentes sur la différence d'âge aussi entre des personnages historiques. Napoléon et Joséphine, non? Avec un casting où dans la vie, je crois qu'ils avaient 8 ans d'écart. Elle étant plus âgée que lui. Et que le casting s'est arrêté sur une jeune femme de 12 ans plus jeune, je crois que c'est sûr que c'est pour ça que c'est... En fait, moi, j'ai pas de problème au fait qu'il y ait encore, comment dire, des résidus de ces choses-là dans les textes, dans les œuvres, dans les scénarios qu'on lit. J'ai un problème avec le fait qu'on ne puisse pas y réfléchir ensemble. Et qu'on se heurte à une male fragility. Pour moi, c'est ce que je vis. Pour certains, c'est une white male fragility. Mais qu'on se heurte à ce mécanisme de défense qui renvoie... Je me suis beaucoup entendue dire, récemment d'ailleurs, « De toute façon, toi, t'aimes pas les hommes. »
Hein ?
Et celle-là, elle est vraiment... Elle est vraiment... je n'ai même pas de mots. C'est surréaliste, en fait, d'entendre ça.
Tu ne mets pas de décolleté
Non, parce que je recadre, parce que j'accepte pas d'être daronnée, que quand on claque des doigts pour me faire venir dans un bureau et m'expliquer la vie en manspreading. Je suis pas tout à fait ok quand je suis en train de, je suis pas tout à fait ok. Je suis moins sympa, franchement. En fait, non, j'aime pas les connards. J'aime pas les sexistes. Ça c'est grave. Clair. Franchement, je les aime pas. Ceux en tout cas qui cherchent pas à y réfléchir et qui sont complètement, c'est clair, je les aime pas du tout. Et ou qui me disent, mais moi j'adore les femmes. Celle-là aussi, elle est pas mal. Je l'ai entendue encore récemment pour me rassurer. Mais moi j'adore les femmes. J'ai plein de copies de femmes.
J'ai aussi un ami noir.
Et donc ça, c'est, je crois, le truc qui m'a le plus violentée ces dernières Ces derniers temps, c'est une conscience. Une conscience qu'en fait. Enfin, j'ai rêvé naïvement à des impossibles, en fait. J'ai rêvé quand j'avais 14 ans d'être footballeuse. Il n'y avait pas de footballeuse, en fait. Enfin, on ne pouvait pas en vivre. Donc, et puis après, j'ai rêvé pendant 15 ans. Mes rêves ont de l'ambition, mais j'ai rêvé d'avoir une palme d'or. Et puis quand, en fait, quand c'est Julia Ducournau qui a pris la palme d'or cette année.
Deuxième femme dans l'histoire du cinéma.
Et là, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que je m'imaginais au-delà de la qualité de nos œuvres après. Mais je pense qu'on a visé la lune, on atterrit dans les étoiles. Donc,
Mais tu peux très bien avoir une palme d'or. Moi, je suis sûre que t'en auras une. Mais carrément, je pense que t'en auras une. Hein. Ouais, j'en suis sûre.
Je sais pas. Parfois, je me demande aussi si ça fait sens d'être adoubée par des systèmes comme ça. Enfin, ça, les Césars, par exemple, ça m'a vachement questionnée. Je me dis, mais attends, on rêve d'un truc qui est quand même bien, bien sclérosé. Enfin, en tout cas, évidemment que ça fait partie de la reconnaissance de nos métiers. Voilà, et donc du coup, mon féminisme, il est assez récent au final.
Ok.
Il était infusé parce que ma mère était une grande féministe, mais je m'étais distanciée de son discours parce que, il fallait ne pas être trop en colère, ne pas être trop chiante, embêtante.
Oh oui, ouais.
Et depuis que ça m'active, parce que je le ressens, parce que je comprends qu'il y a des choses qui ne sont pas ok. Mon premier casting, c'est un vieillard de 78 ans qui me demande de lui montrer mes seins.
What?
Et donc, on parlait de la honte tout à l'heure. À un moment dans ma carrière, je me suis dit, forcément que t'as honte à chaque fois que tu joues. Le premier casting de ta vie que t'as eu, t'as été topless devant un vieux monsieur qui ensuite, à la fin du tournage, t'expliquait que c'est pas bien d'avoir une histoire d'amour avec un ingénieur du son sur le plateau parce que quand un réalisateur choisit une actrice, c'est qu'il est amoureux d'elle. En m'emmenant dans les bois, c'est une anecdote que je commence à raconter, je ne me suis pas autorisée à la raconter pendant longtemps, mais aujourd'hui je me dis, et à 16 ans j'ai cru que c'était moi qui avais fait une bêtise, bien sûr. Et Adèle Haenel a ouvert des chemins dans ma tête de me dire, et toute proportion gardée avec son histoire, mais de me dire, de revisiter en fait tout ça, et de me dire, il y a un truc qui déconne grave. Et pour pouvoir exister dans ces métiers-là, j'ai pas écouté. Et en fait, j'ai pas écouté cette dissociation dans laquelle ça provoque, dans laquelle ça met les corps. Et, voilà. Et aujourd'hui, je suis plus alignée, même si c'est dur en fait, de sentir que ça crée des adversaires. Là où on n'a pas envie qu'il y en ait, parce que...
Mais en fait, on réalise. Mais c'est vrai que Amy Too, ça a été une réalisation énorme. Et le nombre de trucs où même parfois, moi, je dis « Ah, mais en fait, ça, oui, ça, c'était du harcèlement. Ah, en fait, ça, bah oui, si, ça l'était aussi. » Et c'est alors un réalisateur qui, en effet, m'a fait croire qu'on allait faire un film ensemble. En fait, il voulait juste me baiser. Et à base de... Mais ça a duré longtemps, donc il s'est quand même donné du mal. Et en effet, un réalisateur doit être amoureux de son actrice. Mmh. Et même une autre fois, un court-métrage, le réalisateur m'avait reproché de me taper le comédien qui jouait mon partenaire. Et on avait eu une petite histoire. Parce qu'il m'avait dit, tu sais, il ne faut pas faire ça. Le réalisateur, il doit pouvoir projeter sur sa comédienne qu'elle soit pour lui.
C'est un truc de malade.
Et ça m'avait quand même réussi à me culpabiliser. Hein.
Oui, bien sûr. Ah ben oui, je comprends tout à fait. Et après, tu te dis, on n'est pas totalement sorti. Je voyais un numéro de... Je crois que c'est Vogue, là, ou qui présente des couples de réalisateurs-actrices. Tu l'as vu passer, celui-ci?
Non.
Et à un moment, je regardais, je me disais... Je ne sais plus quel est l'intitulé. Et à un moment, je me disais, bon, ben, c'est Almodovar et Penélope Cruz. Et donc, c'est un homme qui regarde une femme.
Qui
et,
donne sa chance.
C'est Zendaya et je sais plus quel autre réalisateur. Enfin, et je me disais, mais... en fait, moi, je me disais, j'adore, les photos sont géniales, j'adore. Et tu vois, je me projette, je me dis, c'est génial. Et puis moi, je me projette dans le réalisateur, en fait. Et je me dis, mais du coup, elle est où
la réalisatrice
qui regarde une actrice, un acteur, il est où?
C'est ça. Et il n'y en a pas.
Non, parce que... Enfin, bon, voilà.
Mais c'est vrai, hein, c'est tous les power couples qu'on avait. Je me souviens, c'était Tim Burton avec des super actrices, avec l'actrice anglaise, tu sais, qui joue dans ses films.
Christina... Non
c'est
Ricci.
C'est pas Christina Ricci, c'est... Oh, bah c'est le podcast, j'oublie. Tu sais, avec les grands yeux noirs qui jouent aussi dans The Crown.
Ouais, non, je vais pas la voir non plus.
comment elle s'appelait? Ça va, une putain d'actrice anglaise. Et oui, il y en avait plein souvent, des metteurs en scène. Bah, t'avais Sam Mendes avec Kate Blanchett, de Kate Winslet. Donc des super réalisateurs avec des super actrices, mais avec souvent en effet cette dynamique de celui qui regarde et celle qui regardait. Et tu te souviens, on a grandi dans les années 90 avec ce modèle ultra sulfureux de Demi Moore et qui était avec un homme plus jeune qu'elle.
Ah oui, bien sûr.
Tu vois?
Ouais.
L'acteur de The 70 Show, Ashton Kutcher. C'était ouais. Ashton Kutcher. Bah, bien crois, sûr. Ouais, qui est aujourd'hui avec une actrice, qui est aujourd'hui avec la meuf de Mila Kunis.
Ouais.
Mais pendant 10 ans, il était avec Demi Moore. Ouais. Et je me souviens, tous les magazines, mais c'était tellement inhabituel.
Ouais, c'est ouf.
Alors pourtant, c'est deux acteurs, mais qu'une femme soit avec... Et de toute façon, on l'a vu avec l'élection de Macron aussi, mais d'un coup, et c'est vrai que... Moi, parfois, je me dis, ouais, je vais être avec des mecs plus jeunes, mais par provoque, un peu pour, tu vois, pour justement, parce qu'en mode, quand les gens sont là, ouh, je suis en mode, bah ouais, alors. Bon, après, il se trouve que les mecs plus jeunes sont souvent immatures aussi, donc bon, voilà, ça dépend desquels. Mais t'as ce truc, globalement, de. Tu vois, je me dis, est-ce que. C'est trop bien, tu vois, de pouvoir être avec un mec et de te dire, bah moi, je bosse plus, ou lui, il fait. Enfin, tu vois, est-ce qu'on a le droit de dire que, genre, ton mec plante dans le jardin des.
On a le droit de le dire, je le dis tout le temps. Ils existent, plante des fraisiers pour nos filles.
Non, ouais. Mais tu vois, ça pour moi, c'est genre, c'est trop beau quoi.
Et cuisine des petits plats au Tolenghi.
Non, mais attends, ouais. Ton mec est le meilleur. Ça, c'est... Et pour revenir juste sur ces crises d'angoisse, alors comment t'as réussi à les résoudre?
Alors, je me suis mise à l'hypnose. Et c'était. Je m'y suis intéressée. Pourquoi je m'y suis intéressée? Au départ, je m'y suis intéressée parce que il y avait des outils, des petits outils d'auto-hypnose qui m'intéressaient. Il y avait ça allait aussi avec tout un moment où j'étais très pensée magique.
Ah ouais.
Tu vois, j'avais lu tu vois ces bouquins infâmes là, Le Secret. J'étais à fond dans il faut demander à l'univers. Donc je voyais des signes partout et tout. Donc j'étais quand même assez sur quelque chose de en tout cas de
mystique.
Ouais, mais mental, surtout de projection.
Okay.
Et puis, progressivement, je me suis dit, mais j'ai découvert l'hypnose et je me suis dit, mais c'est un outil extraordinaire mais pour diriger des acteurs, en fait. Pour justement, en fait, d'abord, j'ai pensé comme réalisatrice en projetant sur des acteurs qui auraient les mêmes problèmes que moi, c'est-à-dire... tout d'un coup, une difficulté à gérer la pression, à se sentir libre, à prendre du plaisir, voilà. Et en fait, ça m'a servi à moi, comme actrice, évidemment. Évidemment. C'est génial. C'est vraiment... Ouais.
Et tu pratiques encore l'hypnose?
Et je pratique pour moi. Maintenant, je vais voir quelqu'un. Quand j'ai quelque chose à préparer, je vais faire une séance d'hypnose. Ça qui est génial avec l'hypnose, c'est que c'est très précis. Travailler sur un objectif très précis. Ça peut être un peu la boîte de Pandore.
Ouais.
C'est toujours le fil d'Ariane. Tu sais pas trop où ça va te mener, mais une séance, tu viens avec un objectif et ça bouge et ça. Mais en tout cas, je prépare beaucoup de choses avec l'hypnose, avec quelqu'un qui m'accompagne, qui s'appelle Agathe Mère et que je recommande, qui est formidable, vraiment. Moi, je pense qu'elle est, elle a beaucoup, beaucoup de clients, mais. Mais voilà, c'est quelqu'un de super.
C'est une hypnotiseuse.
Ouais, hypnothérapeute.
Hypnothérapeute. Ouais. Et elle forme à l'hypnose ou non? Elle est hypnotiseuse.
Elle a écrit un bouquin qu'on trouve qui s'appelle L'hypnose et moi et qui est super ludique pour comprendre tous les concepts et tout. Voilà. Et moi, je l'avais rencontrée au cours de ma formation parce que du coup, je m'y suis formée dans l'idée que c'était un outil pour la direction d'acteur, un outil pour moi pour jouer, un outil en fait.
Ouais.
Et en fait, j'ai tellement trouvé ça génial que j'ai ouvert un cabinet dans la foulée. En fait, je me suis dit, j'ai pas envie de plus faire de protocole, j'ai pas envie de plus faire d'hypnose. Bah, là, ça s'arrête. Donc, j'ai commencé à avoir des copains et des copines et, au cabinet. Et puis, progressivement, j'ai vu des gens que j'avais jamais.
Oh, wow.
Ouais, que je connaissais pas et que j'ai accompagné. Et je me suis arrêtée parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas qu'on n'apprend pas, qui est là, ce qui se joue dans la relation thérapeutique, et ce que nous-mêmes on vient mettre en jeu de transfert avec la personne qu'on accompagne. Et ça, à un moment, je le maîtrisais plus, puis j'étais enceinte et j'avais plus de capital empathique et j'avais plus de place, et clairement. Et mais ceci dit, c'était des séances, mais enfin, ce qui est génial avec l'hypnose, c'est que c'est très très ludique.
Et c'était la première fois que tu faisais un métier qui n'est pas ni actrice, ni scénariste, ni réalisatrice ?
Non, j'en ai fait plein.
Ah ouais ?
J'ai fait de la télé-enquête.
Ah ouais, ouais.
J'ai fait de la télé-enquête, j'ai fait, j'étais vendeuse chez, aux Galeries Lafayette, je vendais du parfum, j'avais bien mal au crâne en fin de journée. J'ai fait plein de petits trucs comme ça et je m'étais formée aussi à la langue des signes à un moment, au tout début, quand j'étais en classe libre à Florent, en mode roue de secours. J'ai, comme ça, j'ai quelque chose de très pratique que je peux faire très vite. Je peux faire l'interprète ou prendre. Enfin, il me manquait quand même quelques étapes pour être, pour avoir un diplôme d'interprète, mais
encore un endroit où on s'est croisés. Donc, t'étais en classe libre. T'étais quelle promo ?
J'étais
28 ou 27. Moi, j'étais promo 30. Attends, excuse-moi.
Oui, un chat qui miaule.
Je vais enfermer les doigts depuis tout à l'heure.
Bah.
Ah, tu crois qu'il est dehors sur le... Il est sur le balcon ?
Minou ? Il est où ? Minou ?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il est là.
C'est vrai ?
Ouais, ouais.
J'ai eu peur. Ah ouais, tu m'étonnes.
C'est pas toi, mon bébé. Oh, il dort confortablement.
Tu vois ? La mère en moi.
Ouais, ouais.
Hier soir, on allait voir...
Si t'enfermes dehors, ton bébé, ça...
Là, ça, c'est mauvais signe. Avant de passer au questionnaire de Proust, c'est marrant parce que il y a des trucs comme ça qui sont cinématographiques, c'est-à-dire les vrais métiers, en fait, entre guillemets, tu te dis c'est des choses intéressantes à filmer, les cabinets, tu sais, tout simplement les lieux où les gens entrent et sortent, les objets. Je voyais ça, hier, on allait voir un film et elle mettait un uniforme. Je me suis dit, ça, c'est vrai que ça fonctionne à l'image, tu sais. Quand tu mets un vêtement, et ça crée un rituel, ça crée un rendez-vous dans le film. Je me suis dit, tu vois, toi qui as lu mon bouquin, que je ne savais pas encore trop comment, mais à un moment, j'aimerais, même si ça a été vu, hein, mais toute la période où je raconte où je faisais des goûters d'anniversaire, tu vois, il y a vraiment un truc de tous ces costumes, en fait, totalement ridiculés.
Tu le racontes bien, tu t'es pissé dessus, non ? Dans ton costume de...
Ouais, dans la... Ouais, ouais. Dans la mascotte mini. Enfin, en tout cas...
Oh, la préférée de ma fille.
Ouais, je me suis pissée dessus parce qu'elle était impossible à enlever. C'était au McDo, quoi. En fait, c'était un peu... Donc, résultat, tu retournes dans la mascotte avec l'odeur de ta pisse moite qui sert le costume. Et en plus, c'est vrai. Alors, c'est... je pense qu'il y aurait même une scène à faire parce que j'avais vu un film israélien ou palestinien, je sais plus, mais qui se passait dans un tank. Ça te dit rien, un film qui avait été primé, qui était sur la guerre, quoi. Et en fait, c'était de l'intérieur et tout se passe dans le tank, en fait. Et donc, c'est des sensations que c'est hyper claustro et en même temps, t'as tous les bruits et ça permet, avec peu de budget, en fait, de retranscrire un peu. Et je me suis dit que ça serait intéressant, justement, de
mettre Mini en mascotte dans un tank.
De l'intérieur, tu vois, de mettre une caméra à l'intérieur. Une caméra à l'intérieur de costume.
Ouais.
Et de, tu vois, que t'es juste la respiration, la sueur, les bruits de tu vois, de l'extérieur, les mains, tu vois, le déambulé. Je me suis dit que ça pourrait créer de l'image. Mais c'est parce qu'il y a déjà plein de trucs... auxquels j'ai envie de discuter avec toi. Je ne sais pas encore quand, tu vois, mais je me pose aussi la question, finalement, dans mon bouquin, de qu'est-ce qui est adaptable à l'écran. Et en fait, cette partie-là, je pense particulièrement. Alors, on a déjà vu, hein, souvent, parfois, mais un peu dans des courts-métrages, si j'ai vu des mecs jouer des Pères Noël, on montre ça. Mais en fait, on ne sait pas le nombre de comédiens qui font ça.
Ouais.
C'est fou, le nombre de comédiens qui ont fait des Pères Noël.
Moi, je me souviens récemment... Enfin, le nombre de comédiens et puis le... Enfin, comédien et pas forcément comédien, en fait. Parce que justement, je me souviens d'avoir emmené ma fille à Chartres. Il y avait un petit stand avec deux mascottes légumes. Et Et ils étaient adorables, mais sous le costume, il y avait des tatouages Maus, un énorme ventre de buveur de bière. Et vraiment, j'étais là. Oui, mais en fait, je ne connais pas le casier judiciaire de cette personne qui vole le bonnet de ma fille et la fait mourir de rire. Et donc, et en fait, sous le costume apparaissait une classe sociale, une vie que tentait de... Et forcément, la dichotomie entre les deux était assez bouleversante. En tout cas, il y avait quelque chose de... d'un peu tragique, en fait. Mmh. Cette fausse...
Cette fausse légère... Je vois ce que tu veux dire. Les traits sous la personne... déguisé, quoi.
Ouais, et puis à un moment, j'ai entendu que c'était parce que ma fille restait à peu près 8 heures devant sa mascotte. Et puis à un moment, c'était la pause déj, quoi. Je les ai vus, comme quand je faisais de la télé-enquête. C'est-à-dire que tu as un œil sur l'horloge sans cesse. Je les ai vus être soulagés.
Ouais.
Et tout d'un coup, il fallait pas le dire deux fois. Les masques tombent vraiment, et il y a cette libération et ce truc de la pause et en fait de ce que c'est que la pénibilité de ces travaux.
C'est hyper physique.
Ces jobs-là et de.
C'est hyper physique, c'est hyper fatigant et je me souviens moi d'anniversaire où c'est terminé, t'as fini et les gens viennent te supplier pour un dernier maquillage pour leur enfant. T'es là, je suis désolée, c'est fini. Et là, puis ils montrent leur enfant, mais elle a tellement envie, s'il vous plaît. Et donc tu te mets et puis la petite te demande à lui rajouter des paillettes. Des paillettes là, et tu vois que t'es en train de faire une demi-heure de rab et t'en peux plus, t'as mal partout.
Je t'enverrai, j'ai un copain à la Fémis qui est monteur et qui est un super réalisateur aussi, même s'il n'a pas très envie de réaliser, je crois, mais qui s'appelle Baptiste Ribraud et qui a fait un film sur un acteur comédien qui anime un goûter d'anniversaire. Et qui prend en otage les enfants parce qu'il sait qu'il y a un grand metteur en scène et il pète une durite, quoi, et il prend en otage les enfants. C'est assez génial.
Ah ouais, ouais. Ah bah tu vois, ça a été parfois, à un moment je me disais finalement, parmi les idées de films, je me disais ça serait drôle, tu vois, qu'en effet elle fasse ce que tu sais quand sur les... t'as un gaz pour hélium pour gonfler les ballons, mais en fait c'est hyper dangereux l'hélium. Tu peux faire sauter ça. Là, tu peux te faire tout faire péter, ouais. Je me disais, est-ce que tu vois un personnage de nana qui anime des anniversaires et qui fait un attentat, et est-ce qu'elle le programme, ou alors en effet une comédienne qui vient faire un goûter d'anniversaire chez une comédienne connue et qu'elle connaît en fait et qu'elle a avec qui elle était à l'école, quoi, qui entre temps. Mais ça m'est un peu arrivé. En fait, une fille qui était à Florent quand j'étais en classe libre, dont moi je me souvenais pas trop, mais qui elle, pour le coup, se souvenait de moi et qui m'avait vue dans les spectacles de classe libre. Et quand elle m'a vue débarquer avec le costume de ce jour-là, qui étaient tous ridicules, elle était « Oh, Rosa !» Mais tu vois, elle avait un grand appart. C'était sa petite
maman.
Non, c'était la tata, je crois que c'était ça. Mais j'ai vu dans ses yeux le. Oh
ah ouais, terrible.
Ouais. Ouais, c'était glauque. Mais bon, en même temps, c'est bien d'avoir vécu ça parce que ça te donne un plafond dans ta vie. Et toi aujourd'hui, mais en plus, est-ce que d'être maman, ça a pas aussi apaisé en fait quelque part toutes ces... parce que tu dis il y a tellement plus grave en fait que quoi qui puisse se passer sur un plateau.
Ah oui, tu penses sur les. De toute façon, moi, à un moment, je me suis dit. Soit j'évacue la souffrance de ce métier, soit j'arrête complètement. Après la première saison, quand tout le monde m'a dit « tu verras, ça passera », après le premier jour de tournage, en fait, c'est passé le dernier jour de tournage. Et là, je me suis dit aussi « va falloir arrêter de te gâcher le plaisir comme ça, parce que c'est quand même vraiment pas rigolo ». Et donc, pour l'instant, j'ai réussi à évacuer la souffrance de ce métier, même si je suis sujette au trac et tout. Aujourd'hui, ça me questionne beaucoup sur la porosité qu'il y a entre les rôles et soi, et sur le fait de ne pas infliger à mes filles, des choses, de savoir cloisonner, en fait. Ça m'aide beaucoup à cloisonner, parce que j'ai pas beaucoup de frontières et je ramène beaucoup le travail à la maison, forcément. Mais parce que c'est compliqué, hein, ce métier-là.
Ouais, bien sûr, c'est toute ta vie.
C'est toute ta vie et puis tu l'incarnes. Donc en fait, comment tu coupes, c'est une grande question. Mais ça m'aide à ça, ouais. Ça m'aide
à dire stop.
Oui, à faire attention à elles, à les protéger de ça.
À pas les amener partout sur les plateaux aussi, quand même un peu.
Non, elles sont venues une fois. Elles sont venues une fois sur 10%. Si, elle est venue. Madeleine est venue. Ma petite est vraiment petite, mais Madeleine est venue sur ma série l'année dernière. Et alors, on tournait en forêt. Et donc là, je réalisais. Et donc, je disais. Donc, on disait chut, silence, s'il vous plaît. Moteur, ça tourne, action. Et donc, après, ma fille, dans la voiture, on passait devant des forêts. Elle était là. Chut. Donc, je pense que pour elle, tournage et forêt.
C'est trop mignon.
C'est vraiment associé. Oui, c'est trop chou.
C'est trop chou. Et tu préfères qu'elle te voit comme actrice ou réalisatrice?
Un peu des deux. Enfin, je suis curieuse de voir, en fait, ça commence à venir, là, l'idée que... Parce que je commence à lui raconter. Alors, je lui dis, tu sais, maman, elle fait comme Pogno sur la falaise. Elle raconte des histoires, bon, avec des vrais gens, mais c'est un peu comme... Voilà, elle fabrique ça, et machin. Donc, pour l'instant... Mais bon, ma fille, elle a envie d'inviter... Elle me dit régulièrement, maman, on peut inviter Pogno et Sosuke à la maison. Donc, en fait, où tu te dis, ah oui, oui, non, alors... ça va être compliqué, le moment où elle va... Déjà qu'on se voit beaucoup aussi en visio, tout ça. Donc, l'image, elle existe déjà, cette dématérialisation. Et aujourd'hui, il n'y a pas de conscience que c'est de la fiction. Pogno existe, hein, ce petit poisson, mon fille.
Ouais.
Et donc, mais comme actrice, je me dis, le jour où, où je vais pouvoir lui montrer des choses et avoir sa réaction. Est-ce que je vais la faire rire? Est-ce que je vais...
Et si ta fille te dit qu'elle aimerait devenir comédienne, comment tu réagis? Sachant, tu vois.
Oh, plutôt bien, parce que j'ai l'impression que
Tu la décourageras pas?
Ah non. Non. J'ai même un peu peur de l'inverse, c'est-à-dire...
De l'encourager.
Non, ou lui passer un peu le virus, tu vois, avec un papa producteur, une maman actrice et réalisatrice et scénariste, je pense que... Ça va, j'ai du mal à les projeter dans autre chose qu'un métier artistique.
Mais oui.
Je les vois peut-être plus dans la littérature. Mais si elles me disent, maman, on veut coder, tu vois, faut que je sois prête à ça.
Ouais.
Si je me dis, chérie, le code n'est pas un métier d'avenir. Je suis actrice.
Bah ouais, c'est marrant, hein, parce que moi, ayant pourtant tellement souffert de ma famille qui me disait, ah, viens de... Mon oncle, ma tante et mon père, les actrices et des putes, fais pas ça. Mais...
Oui, mais c'est notre époque.
Malgré tout, oui, mais je sais pas si moi, je ne ferais pas pareil. Je dirais pas, sois pas actrice, c'est un métier de pute, mais si j'ai un enfant, je pense qu'en effet, Ou tu vois, je vois avec le fils de ma meilleure amie, j'aurais envie pour lui d'une vie un tout petit peu plus simple, un tout petit peu plus douce, un tout petit peu plus en... Où il a un peu plus de tu vois...
Ah bah, c'est sûr que je suis fascinée par les acteurs qui ne se protègent pas d'une certaine manière, enfin en tout cas ne font pas autre chose que jouer. Ouais. Les acteurs les actrices qui ne sont pas auteurs, ne sont pas réalisateurs, ne montent pas leur spectacle, n'écrivent pas, ne sont pas en gros à l'initiative. Ça, ces gens-là me fascinent parce que je sais pas comment on peut trouver un équilibre dans cette attente-là. Et j'ai l'impression que si ma fille me disait je veux juste être actrice et je veux surtout pas faire autre chose, je crois que je la croirais pas.
Ouais.
Je me disais mais c'est impossible en fait. Pour moi c'est impossible. C'est impossible de pas avoir envie de raconter une histoire parce que c'est la même chose. Hein,
oui,
de jouer.
En fait c'est la même chose. C'est ça. C'est quand même un métier total. C'est pas séparé et sauf éventuellement pour les acteurs en troupe, en collectif, où à ce moment-là t'es toujours avec un metteur en scène et c'est une énergie de troupe et à ce moment-là oui t'es acteur mais tu fais partie d'une organisation d'un tout donc il y a quand même un fonctionnement. Mais si t'es actrice et que c'est juste passer des castings et attendre des réponses, mais si, hein, c'est quand même le cas de beaucoup.
Bien sûr.
Et là, oui, c'est vrai que ça paraît trop limitant. C'est vrai qu'en fait, ça va quand t'es jeune, éventuellement, dans ta vingtaine, parce que finalement, tu sais pas quoi, en fait. T'es quand même un peu amené d'un truc à l'autre, mais...
Ou quand t'as des leviers, parce que... T'as une assise qui fait que tu peux décider.
Voilà, ou quand bien sûr tu fais partie de la poignée d'acteurs connus qui se permettent en effet d'aller à la salle de sport ou de partir en vacances et de s'occuper de leur baraque quand ils tournent pas.
Et même de choisir les récits.
Ouais, et de choisir de recevoir plein de scénarios, de les lire et
moi,
de dire
choisis,
ça oui,
mais
ça
du coup je tourne pas.
Ah, mais ça c'est trop bien, c'est que t'en es aujourd'hui au stade où tu passes presque plus de casting si on te propose des rôles.
Ouais, mais... beaucoup de récits encore assez délétères,
ouais.
Assez rétro, assez... Et donc, il y a un entre-deux, je pense, aujourd'hui, pour moi, où je n'ai pas encore, justement, parmi cette poignée d'actrices, à qui on peut, sur qui on peut monter un film, voilà. Un endroit aussi de mon exploration, du jeu, tu vois, ou ce que je disais, aussi parce que... Ça, la question du désir chez les acteurs, c'est terrible. J'ai trop de désir pour, parfois, sur certains films, et c'est pas sexy, le désir, quoi. Mmh. Ça, c'est dur.
Mmh.
Enfin, je trouve que c'est le truc le plus dur, je pense, avec le métier d'acteur et d'actrice.
Ouais.
T'as sujeté au désir des autres, il faut surtout pas que tu montes le tien.
Ouais.
Enfin, faut surtout pas que t'en aies, parce que souvent, il est... En fait, il est lourd, il est... Tu vois, il est trop...
Ouais.
C'est
compliqué.
Ouais. Et donc aujourd'hui, la qualité des scénarios que je reçois, j'estime qu'on a une responsabilité quand on fait ces métiers, et ça, c'est très difficile, hein, parce qu'entre le plaisir de jouer, d'avancer, d'apprendre, et devoir porter des choses et des valeurs avec lesquelles on n'est pas tout à fait aligné,
ouais.
Je pense que c'est ce qui me pose le plus de problèmes aujourd'hui pour travailler sereinement.
Ouais. Mais c'est vrai que les temps changent, et tu vois, avec tout, et quand même MeToo a changé quelque chose du métier de comédienne, et quand même aussi de l'initiative de la part des actrices américaines comme Reese Witherspoon, qui se sont mises toutes à produire. Voilà, il y a eu quand même un shift où tu sens bien aussi que ça va vers les actrices françaises. Peu, mais on sort quand même de toute la période de la nouvelle vague où tu avais vraiment... C'est autre chose qui se dessine, quoi. Et tu te dis, Mazel Tov à celles qui ont été entre ces deux périodes, comme les Julie Delpy ou même les Mai Wen, hein, qui ont dû faire avec une période où il n'y avait pas encore de place vraiment pour elles, quoi.
Mmh. Et où tout le monde... Enfin, une femme qui prend le lead, c'est une folle, c'est une chieuse, elle est ingérable.
Ouais.
En fait, forcément, qu'on devient acharné quand on a tant d'obstacles, tant de refus, tant de...
Oui, puis les gens sont tellement habitués à nous voir gentilles et souriantes et dire oui, que si à un moment, en fait, on change de visage pour asseoir une autorité, bah, tout d'un coup, on est terrifiante. Mais c'est parce qu'en fait, il y a tellement de surjeu de l'autre côté à la douceur, qu'en fait, si à un moment, tu mets un tout petit pas en arrière, oula, grosse connasse.
Ouais.
C'est très compliqué, ouais.
Ouais.
Je vais te poser des petites questions, questionnaire de pause. Après, je dois te laisser filer pour d'autres.
Non, mais t'inquiète pas, parce que je pense que...
Ah zut, tu auras...
T'inquiète, je prends le suivant. J'ai pas du tout envie de courir, t'inquiète.
Ok.
Prenons le temps.
La qualité que tu préfères chez un homme?
je vois mon mec et il en a tellement
que
je... Bah, je sais pas. C'est quelque chose autour de du rapport aux autres. C'est le... L'amour des autres, mais altruisme, c'est un peu... C'est quelqu'un que je vois aimer les gens, être bon avec eux. Voilà. Enfin, c'est comme ça que c'est de cette personne-là dont je suis amoureuse.
Trop belle réponse. Et c'est vrai que ton mec est adorable et que tu as déniché un peu le mec idéal. Mais si on peut donner un indice, c'est qu'aussi vous étiez amis avant. Et ça, ça peut... Voilà, c'est pas un coup de foudre, une histoire passionnelle. C'est vraiment une histoire de longue complicité.
Ouais, bien sûr.
La qualité que tu préfères chez une femme?
Ah, intéressant. Son humour, je crois.
Le principal trait de ton caractère?
Oh là là là. Le principal trait de... Comment je le définis? Un truc, je dirais sinusoïdal.
Ah ouais? Je te trouve vive.
Ah, vive! Ah ouais,
ah ouais, ouais.
Non, même
si t'as trouvé
un mot qui va bien mieux avec ta question. Mais... Ah ouais, c'est gentil, merci. Mais c'est sinusoïdal, c'est-à-dire que.
Ça monte et ça descend?
Oui, en hypnose, justement, il y a un truc qui s'appelle les métaprogrammes. C'est des grilles de lecture où tu peux dire est-ce que t'es dans le temps, hors du temps, est-ce que t'es linéaire ou digressif ou disruptif, est-ce que t'es minimisateur ou amplificateur. Et moi, je suis digressive et amplificatrice. Donc, ça crée des roller coasters.
Waouh! Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Leur confiance dans notre amitié. Et je redirais leur humour. Et la dernière chose qui me touche le plus, c'est quand je découvre à quel point elles me connaissent. Je me souviens de ma meilleure amie, tout d'un coup se mettant à me préparer. On était avec 2-3 amis et je tournais le lendemain et je la vois s'affairer. Et en fait, elle avait senti que je commençais à stresser. Et je la vois s'affairer pour me préparer un petit thé en me disant « Bon, la Fanny, elle commence à... » Et vraiment, j'ai eu ce truc de... Ah ouais, ok. Elle me connaît si bien.
Elle t'anticipe.
Ouais.
Ouais, c'est joli.
Normalement, je suis censée répondre avec un seul mot. Hein.
Oh non, mais t'inquiète, mais j'adore. Est-ce que ton principal défaut ?
Je prends beaucoup de place.
Ouais, c'est bien.
Non, je t'assure. C'est toujours... une qualité a toujours son versant, son pendant. Un défaut aussi, donc... Ça peut être bien, mais je suis très auto-centrée.
Faut se connaître pour connaître les autres.
Ouais,
mais c'est vrai.
Si c'est... Je peux te dire que je me connais bien.
Oui, mais il y a un narcissisme nécessaire pour aussi ensuite avoir la curiosité, tu vois, de... Je veux dire... C'est vrai que moi, le bouquin, ce qui me fait plaisir, c'est quand les gens me disent bah, « ça m'a parlé », parce que je me dis je peux faire que ça, en fait, de parler de moi, c'est en espérant que ça parle aux autres. Mais tu vois, je veux dire, c'est aussi... On est auto-centré et narcissique, mais parce que ça fait vraiment aussi partie du taf. Parce que le plus précis on est, le plus sincère dans l'écriture, dans la réflexion, le plus général ce sera.
Mais est-ce qu'on a choisi ce taf parce qu'on était...
Toi, t'es l'aîné ?
Ouais.
Ouais. T'as un petit frère, c'est ça ?
Une petite sœur.
Une petite sœur, ouais. Elle a combien d'années de moins ?
4 ans et demi.
Ouais, moi j'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi.
Ah ouais, mais t'es l'aîné ?
Ouais.
Ah ouais.
Ouais. Ah ouais.
Sacrée mission.
Ouais. Mais par contre, tes parents n'étaient pas du tout dans le ciné. Non. Et tu te souviens du moment où tu as voulu être actrice ?
Quand est-ce que j'ai voulu être actrice ? Non, je me souviens pas bien, mais je sais que j'ai découvert progressivement que tout le monde en avait un peu rêvé, actrice ou réalisateur. Mon grand-oncle avait voulu passer l'IDEC, il avait été interdit de partir en tournée avec un super metteur en scène, et interdit de passer l'IDEC. Donc à chaque fois que j'avançais, je découvrais comme
Pourquoi
ça... Parce que c'était un métier...
pas recommandable, voilà. Pas assez noble, d'accord.
Oui, c'est ça,
oui,
le saltimbanque.
Oui, ouais, bien sûr.
Je sais pas bien, mais donc il y avait des vocations à avorter.
Il y avait un désir.
Oui, il y avait un désir. Puis j'ai une maman quand même qui est peintre et photographe. Donc,
qui est artiste.
Oui, et qui m'a beaucoup regardée aussi, beaucoup photographiée.
Ah.
Donc il y a quand même cette notion du...
T'étais dans la lumière.
Ouais, exactement. Ouais.
Ton occupation préférée ?
Écrire.
Ton idée du bonheur ?
Écrire.
Quel serait ton plus grand malheur ?
Perdre la cellule que j'ai avec mon amoureux et mes filles. Et tout ce qui rayonne autour. Tous ceux.
Et celles. Où aimerais-tu vivre ?
Je suis bien là où je suis.
Un peu en dehors de Paris.
Un peu en dehors de Paris. Et j'aime beaucoup l'Angleterre.
Mmh.
Ouais, mais je pense que c'est parce qu'il y a ma petite sœur qui est là-bas.
Fanny Sidney, c'est ton vrai nom ?
I know.
I know. It's a name star.
Yeah, it's an American name.
Et tu te souviens du moment où t'as changé ton nom ?
Ouais.
Huh.
Je m'en souviens très bien. Je rentrais d'un voyage... sur les traces à l'origine de l'amour de mes parents, qui était un amour mythologique, puisqu'ils se sont rencontrés à 14 ans en Nouvelle-Calédonie. Ils se sont aimés sur une plage de sable blanc. Ils allaient le week-end faire du voilier sur l'île des Pins. Ma mère ne mangeait que des pommes, un Éden. Et puis, ils nous ont emmenés en Nouvelle-Calédonie que quand on a eu 15 ans, on n'y avait jamais été. Et là, c'était compliqué parce que leur couple se séparait, mais ils revisitaient ces origines-là. Et dans tout ce voyage-là, on a fait une escale à Sydney. Et quand je suis rentrée, j'ai eu pour la première fois un rendez-vous avec un agent et qui m'a dit « Bon, non, ton vrai nom, c'est pas possible, on va faire des coquilles partout ». Pourtant, il était plus simple que le tien.
Ouais.
Et donc, j'ai dit, je veux bien, change. Bah, d'accord. Et je comprenais que ça voulait dire qu'elle me prenait dans son agence. Mmh. Et donc, j'ai dit, Sydney. Et en fait, ça ressemblait à vraiment une décision complètement, tu vois, spontanée, insensée aussi, un peu très adolescente aussi.
Sauf que c'était lié à l'amour de tes parents.
Ouais. Sauf qu'en fait, c'est une manière d'être dans la filiation tout en faisant un pas de côté, tout en... Mmh. Ouais, aujourd'hui, il y a un moment où j'étais pas bien avec le fait d'avoir choisi ce nom-là. Je trouvais ça débile, quoi. J'avais 16 ans. Ouais. En 3 secondes, j'ai choisi un nom et maintenant je vais le porter toute ma vie. Tout le monde me fait des vannes en me disant si t'avais été à Trouville, tu vois, Fanny Trouville. Et puis finalement, je crois que c'était. Ça me va bien. Enfin, ça me va bien.
Ce que tu détestes par-dessus tout.
La méchanceté, les connards et les douches, pommeaux de douche. Les douches où tu peux avoir un fil. La méchanceté, les connards, vraiment, j'y reviendrai. Mais... non, mais les gens... je sais pas. Qui se détruisent les uns les autres. Je sais pas comment le dire, tu vois. Artistiquement, par exemple. Ça me... Voilà. Et donc les pommeaux de douche.
Oui, il y a qu'un petit fil de.
Non, tu sais, en fait, les trucs là où t'as la grosse pomme comme ça au-dessus de ta tête.
Ouais.
Et sinon, t'as le choix avec un truc à filaire, je dirais.
Ouais.
Et tu ne sais pas. Et alors tu vas comme ça, tu prends
et
ton
l'eau,
truc
bam, filaire, et d'un coup, l'eau froide.
Ouais. Voilà.
Très bonne réponse. C'est vrai qu'on déteste ça. C'est trop froid.
Ça peut vraiment me mettre très en colère.
Ouais.
Ouais, j'ai des révoltes, tu vois.
Non, mais je vois ce que
t'as. Des engagements. Hein.
Oui, mais la sensation de l'eau froide non désirée, et c'est très violent. Ouais. Comment aimerais-tu mourir ?
Très vieille. Très vieille et... très vieille et... Et très doucement. J'ai lu là que au moment de notre mort, le cerveau émet les mêmes ondes cérébrales que dans les rêves.
Wow.
Et en fait, j'ai lu ça ce matin. Et qu'en fait, c'est peut-être pour ça que les gens qui ont des near-death experiences disons qu'ils ont revu toute leur vie, machin. Et en fait, c'est juste que ça, comme t'as les mêmes ondes cérébrales qu'en méditation ou que dans les rêves. Mmh. Et donc là, moi, dans ce cas-là, je veux bien mourir très lentement pendant très très longtemps. Mmh. Si en fait, c'est juste avant que ça s'éteigne là. C'est juste, tu te prends un trip monumental de...
Hmm.
Mais doucement, quoi, tu vois, pas... Enfin, vraiment juste dans cette étape-là, là, dans ces ondes-là.
Et quel est ton état d'esprit actuel ?
Actuel ?
Là.
là, je suis un peu dispersée, parce qu'il faut que je rentre à Chartres, que j'aille chercher mes filles, j'ai envie d'écrire, et je suis digressive, disruptive, donc j'ai des trucs dans le tout, enfin, voilà. Mais... c'est toujours le fait de faire les choses intensément et au moment d'en sortir de réaliser toutes les autres choses, et là j'étais complètement plongée. C'était trop bien.
Merci Fanny.
Merci Rosa.
Et voilà, messieurs, dames, mes stambouliantins, stambouliantines, c'était Fanny Sydney qui a dû certainement utiliser ses dons d'hypnose pour me captiver, car avec l'émotion, j'avais oublié le nom de l'ex-femme de Tim Burton, l'actrice Helena Bonham Carter. Quant au film qui se passe dans un tank israélien, il s'agit de Lebanon, qui raconte la vie en huis clos de 4 tankistes pendant la première guerre du Liban. Je vous laisse à présent car j'ai beaucoup de travail. Je dois notamment préparer le Festival d'Avignon où je vais jouer mon spectacle au Théâtre des Béliers les 10, 16, 17, 18 et 20 juillet à 22h35. Par ailleurs, je relance enfin mon projet de newsletter. L'intérêt de s'y abonner ? J'y donne en exclu les noms des prochaines invitées du podcast. Je vous mets le lien vers le formulaire en description de l'épisode, selon l'onglet newsletter sur mon site internet. N'oubliez pas de renseigner votre ville pour être prévenu quand je viens jouer près de chez vous. Et maintenant, je vous fais de gros bisous.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast « @lesmecsquejeveuxken » sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.